Au texte entendu tout à l'heure, nous en ajoutons un autre qui est directement à la suite au chapitre 4, mais pas aussi long, heureusement. Nous lisons les trois premiers versets du chapitre 4 du livre de Daniel. Nébuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il semble par ces textes qu'on entende l'apôtre Paul. Vous ne trouvez pas? Un peu dans ce style. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Dans le chapitre précédent, Nébuchadnezzar parlait de ses dieux. Maintenant, il parle du Dieu suprême qui est intervenu à son égard. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. On peut ne pas en croire nos oreilles, mais c'est Nébuchadnezzar qui a prononcé ces paroles. J'ai pensé que nous pourrions nous saisir de cette dernière réunion pour voir où nous en sommes quant à notre engagement avec Jésus-Christ. À considérer la foi, le courage des trois hommes auxquels il a été fait allusion tout à l'heure au chapitre 3 du livre de Daniel. Babylone était en ce temps-là la reine des cités du monde. Des cités du monde connues d'alors, bien sûr, la plus belle ville de toute la terre. Du temps du prophète Daniel dans les années 500 avant Jésus-Christ. Babylone avait connu l'apogée sous le règne de Nébuchadnezzar, dont il a été question tout à l'heure, et cette cité avait été surtout connue pour ses jardins suspendus qui faisaient partie des sept merveilles du monde, avec le mausolée d'Halicarnasse, le temple de Diane à Éphèse, le colosse de Rhodes, dont on aurait retrouvé une main, semble-t-il, avec aussi le colosse de Rhodes, donc la statue de Zeus olympien et le phare d'Alexandrie. Je disais que cette ville était surtout connue pour ses jardins suspendus, mais aussi pour ses murailles doubles de 23 mètres de haut. De large, pardon, chacune, excusez, de 23 mètres de large, chacune, et de 92 mètres de haut, chacune. Je ne sais pas combien vous êtes ici à connaître l'Atomium à Bruxelles. Levez la main. Tiens, il y a des Belges ici. Et ça n'est pas du tout une histoire belge, mais des murailles aussi hautes, aussi élevées que celles, enfin que celles, non, que l'Atomium à Bruxelles, qui mesure à peu près, si mes souvenirs sont bons, 100 mètres de haut. C'est incroyable. Cette ville était construite en carré de 23 kilomètres de côté, d'une superficie de 529 kilomètres carrés. Une centaine de portes de bronze y donnaient accès, 25 par côté. J'ai peur de vous donner envie de vivre à Babylone, hein. De chacune de ces portes partait une large rue. Et ces rues se croisaient à angle droit et divisaient la ville en carrés de maisons. L'Euphrate y coulait, la partageant en deux, la rendant agréable, arrosant ses vergers en même temps que ses jardins suspendus. Qu'il est bon de parler d'eau, qu'il est bon de parler de cours d'eau. Et quand on éprouve une telle chaleur dans une telle salle. Nébuchadnezzar était son roi. Il régnait sur tout le monde connu d'alors, selon une parole qu'il a dite lui-même à Nébuchadnezzar en ces termes, en Daniel 2:37, ô roi, tu es le roi des rois. Le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes. Il t'a fait dominer sur eux tous. Nebuchadnezzar a été un grand roi. Peut-être même le plus grand roi que la terre ait jamais porté, que la terre ait jamais connu, Nebuchadnezzar. Il avait défait le pharaon Necho, monté contre Babylone, juste avant la mort de son père Nabopolassar. En 586, il détruisit Jérusalem. En 567, il envahit l'Égypte. Mais avant cela, en 604, lors du siège de Jérusalem, il emmena captifs des milliers de Juifs à Babylone, à des centaines de kilomètres de la Palestine, dont précisément Daniel, Anania, Michaël, Azaria, quatre jeunes Hébreux qui vont à présent nous intéresser. Ces jeunes Hébreux étaient à Babylone, mais ils n'étaient pas de Babylone. Pour rappeler une parole du Christ lui-même dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17, et cette parole nous concerne, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et comme Daniel et ses compagnons, précisément aujourd'hui, nous vivons au sein d'une Babylone universelle. Oh, plus que jamais, notre monde ressemble à Babylone. Et savez-vous ce que firent ces jeunes gens dès qu'ils se trouvèrent en captivité dans cette prison aux barreaux d'or? L'or était le symbole de cette cité de Babylone. Ils décidèrent de faire équipe. Je puis dire que c'est ce qui précisément certainement les sauva. Ils décidèrent de faire équipe, de se serrer les coudes ensemble au sein de Babylone, pour tenir le coup, être fort, ne pas céder aux tentations. Imaginons un instant ce que Babylone a pu être pour ces quatre jeunes gens, au plan des tentations, sur tous les plans. Ils décidèrent donc de faire équipe. Et c'est la première leçon que nous pourrions tirer de ces textes. Nous avons besoin d'être et de vivre en équipe. Je ne sais pas si vous vivez en équipe. Mais l'équipe aujourd'hui est absolument nécessaire. Où que nous vivions, où que nous soyons, à partir du moment où nous nous disons chrétiens. Et je suis de ceux qui pensent que précisément l'équipe, par excellence pour le chrétien, aujourd'hui c'est son église. J'ai été tout à l'heure heureux d'entendre, à propos de France Évangélisation, que ce mouvement veut à tout prix servir l'Église. Et je crois qu'il est dans la bonne direction. Il faut à tout prix que nous fassions équipe dans l'Église. Vous savez que le Christ n'a rien de plus cher sur la terre que son Église. Évidemment, il est parfois très facile de dire, oui, on le croit, on l'accepte, seulement on fait partie de l'Église universelle. De plus en plus, je constate que trop de chrétiens nous envoient comme ça à la face ce genre d'argument. Une bonne manière de ne pas justement fréquenter une Église précise pour faire équipe avec ceux qui la composent, pour vivre l'équipe, et pour pouvoir être fort et tenir le coup. Alors Daniel et ses compagnons connaissaient des temps de partage ensemble, Daniel 2:17. Il est bon d'avoir des temps de partage ensemble avec des frères et sœurs. Cette équipe aussi avait des moments de prière ensemble, Daniel 2:18. Et les choses étaient allées ainsi pendant 3 ans, tandis qu'on leur fit apprendre les lettres des Chaldéens, la langue des Chaldéens, la culture et les coutumes des Chaldéens. Il y a peu de temps à Montréal, pendant une journée, j'ai traité du sujet suivant, l'équipe dans la pensée de Dieu, dans une faculté de théologie baptiste. L'équipe dans la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas que nous vivions seuls comme cela, dans la nature, sous prétexte que nous faisons partie de l'Église universelle seulement. L'équipe est dans la pensée de Dieu parce que Dieu lui-même représente une équipe à l'origine. L'équipe de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu travaille toujours en équipe. Dieu vit en équipe. Et cette équipe n'exclut pas un leadership. Dans cette équipe, il semble de la Trinité, de la Sainte Trinité, le chef, c'est le Père. Le Fils s'est soumis volontairement au Père et le Saint-Esprit a un ministère beaucoup plus effacé, semble-t-il, que celui des deux autres personnes de la Trinité. Pourtant, il est tellement présent, le Saint-Esprit, dans son Église aujourd'hui et dans le cœur des croyants. Et si le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, vit, j'allais dire, en équipe, à plus forte raison, nous avons besoin, nous, de nous situer dans l'Église du Seigneur pour la fréquenter. Et non seulement pour la fréquenter, mais pour la servir. Pour y croître sur tous les plans. Et c'est ainsi qu'on tient le coup. Dans notre Babylone, trop de chrétiens, précisément, disais-je, veulent vivre seuls leur foi en Christ. Ils vont tout droit vers l'aventure et vers la catastrophe. C'est donc la première leçon qui nous est donnée par cette jeune équipe. Et en ce faisant, cette équipe avait accédé à des situations importantes, très importantes. C'est ainsi que Daniel, par exemple, devint le premier ministre de Babylone, acceptant la cohabitation avec Nebuchadnezzar. Vous l'auriez appelé comment, lui ? Non, il s'est appelé ensuite Belshazzar, pas Chirac. Acceptant donc de cohabiter avec le roi le plus important de la terre, parce que Daniel avait établi, plutôt Nebuchadnezzar, pardon, avait fait de Daniel le chef suprême de la province de Babylone. Et sur intervention de Daniel, ses amis devinrent intendants de cette même province. Et savez-vous quelle autre décision ils prirent, ces jeunes gens ? Une succession de décisions qu'il est important que nous prenions, même si nous ne sommes pas jeunes, et comme ce fut leur cas. Ils décidèrent que, bien que loin de leur pays, dans ce royaume païen, ils vivraient pour Dieu, quel qu'en soit le coût. Je ne sais pas si nous avons pris déjà une telle décision. Une telle décision, je dirais, capitale entre toutes. Est-ce que nous avons déjà décidé de vivre pour Dieu dans notre Babylone à nous, quel qu'en soit le coût, comme ces jeunes ? Ils décidèrent de ne pas se confondre, encore moins de se fondre au monde environnant. Quel qu'en soit le coût, ils décidèrent en plein cœur de Babylone de donner à Dieu la première place dans leur vie. Je trouve ça extraordinaire. Ce que nous avons, nous, décidé, nous allons bientôt retourner. Nous étions un temps sur la montagne. Nous allons rejoindre très bientôt la vallée de Dura de ce monde, remplie, pleine d'idoles de toutes sortes. Est-ce que nous avons pris la décision de mettre le Seigneur à la première place dans notre vie, quel qu'en soit le coût ? Quel qu'en soit le prix, comme ces jeunes gens, ils décidèrent de donner à Dieu la première place et de lui donner gloire dans cette terre païenne, dans cette ville païenne de Babylone. Ils décidèrent de lui obéir coûte que coûte. Ce sont des décisions importantes à prendre aujourd'hui quand on se dit chrétien dans ce monde. Il n'est pas du tout facile aujourd'hui d'être et de vivre en chrétien dans ce monde. Ils décidèrent d'obéir à Dieu, de l'honorer, de le glorifier à tout prix. Avons-nous déjà pris ce genre de décision? Témoin à Babylone, quel qu'en soit le prix. Les choses étaient allées assez rondement jusqu'à la fin du chapitre 2. Et puis, au début du chapitre 3, ils connurent, surtout les compagnons de Daniel, une très forte opposition à leur foi. Leur foi fut mise à rude épreuve. Nébuchadnezzar, au fait de la gloire, est certainement dans une crise aiguë, n'est-ce pas, très forte, de mégalomanie, décida d'élever une statue en or massif dans la vallée de Dura. Une statue très certainement à son image, un peu comme l'Antéchrist qui vient aura lui aussi son image. Cette statue avait 27 mètres de hauteur, 2,70 mètres de largeur en or massif, s'il vous plaît. Dans quel but? Bien sûr, vous l'avez deviné. Dans le but de se faire adorer de tous ses sujets, de tous ses chefs d'État, de tous ses magistrats, de tous ses vice-rois, partout où son règne s'étendait sur la surface de la terre. En tant que monarque absolu, il avait désiré, souhaité, être adoré comme ce fut le cas de tant et plus de monarques dans le passé, jusqu'en France. Alors il fit venir, il fit convoquer tous ses chefs d'État, ses vice-rois, ses satrapes, ses juges, ses trésoriers, ses ministres, les intendants, les gouverneurs de province, les représentants de toutes les nations connues sur lesquelles s'étendait son règne, puis l'ordre tomba de façon imparable. Daniel 3, 4, 6. Au son des instruments de musique, un hérode criait ce qui suit. Peuple, nation, homme de toute langue, au moment où vous entendrez les instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue qu'a élevée le roi Nébuchadnezzar. Au signal donné donc, tous dans cette vallée de Dura, tout ce gratin, comme le disait tout à l'heure notre frère Jean Chex, tous ces hommes, toutes ces femmes, le nez dans la poussière, au pied de cette statue. Ô Nébuchadnezzar, un antichrist en son temps. Pour les Juifs, très certainement, et en particulier pour Daniel et pour ses compagnons. Mais ce même Nébuchadnezzar était en son temps une figure prophétique de l'Antéchrist qui vient, qui ne saurait à présent, semble-t-il, tarder. Résister à cet ordre eût entraîné sur le champ la mise à mort par le feu dans une fournaise ardente. Mais quelle épreuve pour la foi de ces jeunes gens! Oh, la Bible nous fait savoir que l'Antéchrist arrive, que son esprit est déjà certainement bien à l'œuvre dans notre monde. Et la Bible nous fait savoir que cet Antéchrist qui vient un jour lui aussi cherchera à se faire adorer, encadré qu'il sera d'une part par la prostituée, de d'autre part par le faux prophète. Et toutes nos crises aujourd'hui appellent un homme d'une dimension politique exceptionnelle. Toutes nos crises appellent aussi un homme d'une envergure économique exceptionnelle. Partout où j'ai l'occasion de passer sur cette terre, les hommes aspirent à un gouvernement mondial tel le thème qui m'a été même donné à Capesterre l'an dernier pour le grand rassemblement des chrétiens de l'Église évangélique de la Guadeloupe. Ils se sont réunis à plus de 5000 à Capesterre sur le thème « Le gouvernement mondial qui vient ». Et le thème a été tellement accrocheur que France Antilles, qui est le journal des Antilles, avait délégué des journalistes pour savoir ce que nous pouvions dire précisément sur l'éventualité d'un gouvernement mondial s'installant quelque part ici-bas pour soumettre tous les hommes. Toutes nos crises aujourd'hui aussi, et ces crises sont énormes, sont un peu comme les douleurs de l'enfantement d'un nouvel ordre économique mondial, d'un nouvel ordre politique mondial, d'un nouvel ordre religieux mondial. Et nous y courons très vite. Ce fut précisément l'épreuve qu'a rencontrée cette petite équipe. Mais que faire ? Obéir à Nebuchadnezzar, se prosterner, adorer la statue, ou bien rester debout ? Je ne sais quelle décision nous aurions prise nous-mêmes dans une situation semblable. Nous n'avons jamais été confrontés à ce genre de choses, mais à poser la question, j'en éprouve des frémissements. Mais qu'aurions-nous fait à leur place ? Ils auraient pu accepter de se courber devant cette statue pour se rendre agréable à Nebuchadnezzar, qui leur avait confié des postes de responsabilité au plus haut niveau dans la province de Babylone, j'allais dire du Québec. Ils auraient pu donc chercher à se rendre agréable, et puis dans cette foule immense, on ne les aurait certainement pas remarqués, ces trois gaillards. S'ils s'étaient prosternés avec les autres, on ne les aurait pas remarqués. Ils auraient pu comme cela passer inaperçus. Allait-il adorer la statue ? Faire comme les autres ? Ou bien rester debout avec à la clé une mort certaine dans la fournaise ardente qui ne devait pas être loin de cette vallée de Dura ou peut-être même dans cette vallée même. La cohabitation, certes, mais jusqu'à un certain point. Voilà ce que nous pouvons apprendre de cette jeune équipe. Vous savez, quand nous sommes mis devant de tels choix, mais que c'est difficile. Je n'ai pas une expérience semblable, mais j'ai dû un jour, et je le rappelle avec émotion, parce que j'ai beaucoup aimé mes parents. Ma mère est décédée le mois dernier, mais il y a 31 ans, mon père m'a mis devant un choix. Et ça a été excessivement difficile. Tu te dis chrétien, tu veux suivre le Christ ? Eh bien, tu dois maintenant choisir entre ton père, ta mère, ta famille et Jésus-Christ. J'étais en larmes et je lui ai dit, mais je vous choisis, vous et le Christ et vous. Je ne peux pas faire un choix, mais si tu m'imposais ce choix, eh bien papa, je choisirais Jésus-Christ. Mais en larmes, alors bien sûr, je me suis retrouvé sur la rue avec ma valise, en larmes pour être accueilli par un non-chrétien, parce que, ne sachant pas où allaient dormir les nuits là qui ont suivi l'événement. Mais ce sont des choix qui vous déchirent. Qui vous déchirent littéralement, mais quelle grâce que de pouvoir choisir Dieu jusque dans les larmes. Alors, est-ce qu'on réalise le choix devant lequel cette petite équipe a été placée? Le nez dans la poussière ou périr dans la fournaise ardente? La cohabitation, oui, mais jusqu'à un certain point, cette petite équipe avait concédé énormément de choses. Des choses que nous n'avons pas, nous, concédées. En France, nous vivons dans un bon pays de liberté, gloire à Dieu. Hein? Il faut que nous le réalisions, cela. Mais la plupart du temps, ceci nous échappe. Il faut réellement aller dans des pays où l'évangile est brimé pour se rendre compte de la liberté que nous connaissons. Avec mon épouse, nous sommes retrouvés un jour dans un pays socialiste. J'avais reçu l'adresse du lieu de réunion. Évidemment, quand nous allons dans ce genre de pays, ça n'est pas sur mon programme. Vous l'avez compris. Alors, nous avions convenu d'un rendez-vous avec une personne dans une large avenue de la ville. Et puis, on m'avait passé comme cela en douce l'adresse du lieu de réunion où je devais me rendre. Puis ensuite, cet ami m'avait dit, une fois cette adresse mémorisée, « Détruisez-la !» Je ne sais pas si vous êtes venu jusqu'ici de cette manière-là. Puis cet ami nous dira encore, « Quand vous serez arrivé tout près de la porte d'entrée, tout près de cette porte d'entrée, il y a une vitrine. » Alors vous vous placerez devant la vitrine pour commencer, et cette vitrine fait un peu miroir. Vous pourrez de cette manière-là voir ce qui se passe de l'autre côté de la rue, surtout vous rendre compte si vous êtes ou non guetté, épié. Nous nous sommes venus ici en toute liberté. Puis une fois sûr avec mon épouse de n'avoir pas été suivi ni guetté, nous avons franchi très vite le seuil de cette salle de réunion pour nous retrouver avec un groupe qui nous avait réellement accueillis de façon extraordinaire. Et puis, le moment venu, le frère responsable, il n'y a pas de pasteur dans ces pays, m'a dit ce qui suit, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, Alain Chouaquier, seulement voilà. Il y a 15 jours, nous avons été trahis, la police est arrivée, on nous a tous embarqués au commissariat pour être interrogés et battus pendant une semaine. Si la police intervenait maintenant, vous seriez des nôtres, acceptez-vous d'être conduits au commissariat, d'être interrogés pendant une semaine, comme ça a été le cas, peut-être les autorités vous conduiraient-elles à l'ambassade de France. Mais quelle question! C'est la première fois qu'on m'avait posé ce genre de questions avant une prédication. Avant la suivante, en tout cas avant celle-ci, Jean Chex ne m'a pas posé cette question. Et je vous assure que quand on vous pose ce genre de questions, bien, on a beau avoir la foi, on en frémit là encore. Alors j'avais dit en regardant mon époux, après avoir regardé mon épouse, je lui avais répondu, on y va, à la grâce de Dieu. Mais je puis vous dire que toutes les fois où ça bougeait du côté de la porte, Alain Chouaquier était là, tout tremblant. C'était des gens qui arrivaient en retard. Et jusqu'au bout, il ne s'était rien passé. Rendez compte de la liberté que nous avons ici en France, dans nos pays. Cette petite équipe avait concédé énormément de choses, disais-je. D'abord, ils avaient accepté qu'on les enlevât de leur pays, de leur cher pays, de la Terre Sainte, comme dit Zacharie de 12. Ils acceptèrent aussi qu'on les séparât de leur temple, celui de l'Éternel. Ils avaient concédé énormément de choses. Ils avaient accepté qu'on les séparât de la sainte cité de Jérusalem. Ils avaient même accepté qu'on touchât, qu'on modifiât, qu'on touchât à leur nom. Je ne sais pas si nous aurions été d'accord qu'on touche à notre nom. Vous savez, il y a peu de temps, en Albanie, je l'ai lu quelque part, les autorités avaient demandé à tous ceux qui portaient un prénom chrétien d'envisager de le modifier pour gommer toute trace de christianisme en Albanie. Ce pays s'est proclamé il y a peu de temps le premier État athée du monde. Ceci peut nous arriver aussi plus vite que nous le pensons. C'est ainsi que Daniel, qui portait un très beau nom, Dieu a jugé, Daniel s'est retrouvé tout à coup avec Belshazzar. Belshazzar, quelqu'un sait-il ici ce que signifie ce nom païen ? Que Bel protège le roi ! Bel, une divinité babylonienne ! Et Daniel avait accepté ce nouveau nom sans broncher. Je ne sais pas si vous accepteriez qu'on change votre nom et qu'on vous donne celui de Tartampion, je ne sais pas. Anania, qui portait lui aussi un très beau nom, l'Éternel et miséricordieux, s'est appelé Shadrach. Ça, c'est presque Chirac, mais ça ne l'est pas tout à fait. Shadrach ! Shadrach qui signifie adorateur du dieu de la lune. Imaginez avec quel nom Anania se promenait ensuite dans les rues de Babylone. Michaël, lui, portait aussi un beau nom. Michaël signifie qui est Dieu. Il s'est retrouvé avec le nom de Meshach, hôte du roi, ce nom passe encore. Hein. Mais quant à Azaria, l'Éternel a secouru, il s'est retrouvé avec un drôle de surnom, Abed-Nego, presque Abed-Mego. Le pauvre serviteur, ceci signifie serviteur de Nebo ou de Nego, une divinité babylonienne. Elle aussi. Ils avaient donc accepté énormément de choses sans broncher. Ils avaient accepté d'apprendre la culture des Babyloniens, leur langue, les lettres, les coutumes, sans broncher. Ils avaient accepté une entière soumission aux autorités en place, sans broncher, et c'était beaucoup. Mais voilà maintenant qu'on voulait attenter littéralement à leur foi, en leur demandant de se courber devant une idole en or. Eh bien, ils décidèrent de saisir cette occasion pour démontrer leur foi en l'Éternel. Ils avaient tout accepté, excepté le fait de renoncer à leur foi en l'Éternel. Ils avaient donc saisi cette occasion pour démontrer qu'ils aimaient leur Dieu, que leur Dieu, justement, jusqu'au cœur de Babylone, dans leur vie, occupait la première place. Oh, ce fut là pour eux l'occasion d'un puissant témoignage à la gloire de Dieu. Et les textes nous rapportent que tous eurent le nez dans la poussière, excepté trois hommes qui étaient restés debout, raides comme la justice, parce qu'ils avaient pris la décision de ne pas faire comme les autres. Trois hommes debout. Mais quel témoignage! Trois hommes qui n'avaient pas accepté cet ordre pour eux. Quel témoignage! Mais des regards jaloux les avaient observés pour les dénoncer au roi. Des guetteurs, certainement, que le roi avait fait établir ici et là pour observer que tous obéiraient à son ordre. Trois hommes n'avaient pas accepté l'ordre de Nebuchadnezzar. Bien sûr que Nebuchadnezzar le sut. S'agissait-il de guetteurs, on n'en sait rien. La Bible ne le précise pas. Mais certainement qu'il devait s'agir de guetteurs, sinon on ne peut pas comprendre que des gens aient pu observer que trois hommes étaient restés debout, parce qu'eux aussi devaient se retrouver le nez dans la poussière. Et comment avoir le nez dans la poussière prosterner au pied de cette statue et regarder qui pouvait rester debout sans prendre un torticolis. Le roi en fut informé et il entra dans une fureur terrible. Qu'on me les amène, ces trois jeunes, pour une explication en face. Mais ce roi Nebuchadnezzar était un roi très chic. Il avait apprécié cette jeune équipe. Alors de leur dire, après évidemment avoir piqué sa colère, « Je vous accorde une seconde occasion. Pour vous rattraper, vous avez manqué la première, voilà la seconde, afin que les choses s'arrangent et qu'on n'en parle plus. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous. Dans un premier temps, vous seriez resté debout, et dans un deuxième temps. » Vous savez, j'ai longuement réfléchi à la question. Mais ces jeunes de répondre au roi, pas du tout impressionnés par ce qu'ils représentaient, « Nous n'obéirons pas à ton ordre. Nous ne nous prosternerons pas le nez dans la poussière comme toutes ces foules. Il faut que tu le saches, ô roi. Mais, vous savez, il faut un certain cran pour répondre ainsi à une telle personnalité en face de soi. Il y a peu de temps, à Paris, j'ai été invité à un déjeuner-débat, plutôt un déjeuner-conférence par le Cercle des intellectuels africains de Paris pour une prédication de l'Évangile. J'ai eu dans l'auditoire, en face de moi, deux ministres. Alors j'ai pensé à cela. On peut être impressionné par la présence de personnalités en face de nous. Alors le texte, un texte de l'apôtre Paul, m'est arrivé à la mémoire de la part de Dieu, celui qui se situe en 2 Corinthiens 5, où l'apôtre dit « Nous ne connaissons plus personne selon la chair. » Et en regardant à ces deux ministres, qui avaient été signalés par le président de ce déjeuner-conférence, j'avais décidé dans mon cœur de ne rien changer au message que j'allais délivrer. Seigneur, donne-moi ce courage de ne plus connaître personne selon la chair. Le roi vexé, bien sûr, de décider de les jeter alors dans cette fournaise qu'il avait fait chauffer 7 fois plus. Il avait fait trier sur le volet des hommes très forts, de vigoureux soldats pour lier ces trois hommes. Et la fournaise avait été tellement ardente que ces hommes vigoureux furent littéralement tués par ce feu insupportable, insoutenable. Et nos trois amis furent jetés dans cette fournaise. Le roi ayant désiré je ne dirais pas peut-être jouir de ce barbecue de chair humaine, mais disons, ayant désiré voir ce qui pouvait se passer dans cette fournaise ardente, s'approcha. Et certainement alors, en regardant à cette fournaise, mais que m'arrive-t-il? Je prends sûrement un coup de vieux. Je deviens bigleux. Combien d'hommes avons-nous jetés dans le feu? 3 hommes, oui. Moi, j'en vois 4. J'en vois 4. Et je les vois sans lien, marchant sans mal, aucun dans la fournaise ardente. Mais là encore, quel témoignage! Ô Christ, ne leur avait pas évité la fournaise, mais il avait été avec eux, il s'était situé lui-même avec eux au sein de cette fournaise. Pour leur venir en aide, le Christ n'a jamais promis de nous éviter la fournaise. Mon père spirituel, Ralph Chalice, avait coutume de dire qu'il n'avait jamais autant souffert que depuis qu'il était devenu chrétien. Parce que vous en avez qui pensent qu'une fois chrétien, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de difficultés. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus... Mais l'apôtre Pierre nous rappelle que nous avons vocation de souffrir. Mais vocation de souffrir pour la gloire de Dieu, pas pour n'importe quoi. Il a dit « Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et très souvent, les traces du Seigneur nous conduisent dans la fournaise ardente. Oui, les épreuves, les larmes, mais quelle joie de savoir que le Seigneur nous a promis sa présence pour tous les jours. Il a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, des difficultés, des problèmes, des souffrances, mais prenez courage et vaincu le monde. » Et je peux dire alors vraiment que c'est à partir du moment où on décide de mettre le Seigneur à la première place dans notre vie que nous devenons des chrétiens exposés. Exposés aux traits enflammés du malin, aux griffes du lion rugissant. Que nous sommes exposés tant que nous n'avons pas pris la décision de mettre Dieu à la première place dans notre vie, le diable nous fiche une paix royale. Mais dès le moment où nous avons décidé réellement, coûte que coûte, de glorifier le Seigneur, de lui donner la première place, de l'aimer lui le premier, alors nous devenons très exposés à l'ennemi qui fait de nous ses cibles. De façon terrible. Mais le Seigneur voudrait que nous l'aimions lui le premier. C'est en l'aimant lui le premier qu'il prend alors chez nous, qu'il tient alors chez nous la première place. Que dit le premier commandement, le plus grand? Que dit-il? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment? Des miettes de ton cœur, quand tu y penseras. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ta pensée. Tu l'aimeras de toute ton âme. Tu l'aimeras de toute ta force. Et j'ai découvert dernièrement que ce commandement-là est en étroite relation avec le texte du Christ lui-même à l'église d'Éphèse en Apocalypse 2. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et j'ai découvert que, au fond, le premier amour n'est pas, comme on le croit souvent, je suis très respectueux de ce qu'on peut croire, hein, mais j'ai découvert en tout cas pour moi que le premier amour n'est pas l'amour que nous avons eu au tout départ, au tout début de notre conversion. Le premier amour, c'est l'amour premier, celui que nous devons vouer à Dieu. Le premier amour, c'est l'amour qui aime Dieu d'abord. Et dès que nous n'aimons plus le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, nous avons perdu le premier amour. Et c'est ce qu'avait justement perdu cette église d'Éphèse. Cette jeune équipe avait aimé le Seigneur au risque de sa vie. Et ils avaient ainsi ensemble démontré qu'ils aimaient Dieu le premier. C'est cela le premier amour. Quelle place Dieu occupe-t-il chez nous, couramment chaque jour? Il est tellement facile de dire au Seigneur que nous l'aimons. Mais suffit-il de le lui dire pour que ce soit vrai et pour qu'il le croie? Oh, le Seigneur a plusieurs tests, lui donnant d'estimer l'amour que nous lui vouons. Tel n'est pas mon sujet de ce soir, mais je vous les donne au moins trois tests. Le premier, Jésus l'a dit, celui qui m'aime, garde ma parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est clair. Si j'aime la parole de Dieu, et si je l'affectionne, si je la lis régulièrement, si je la serre dans mon cœur, je manifeste que j'aime mon Seigneur, puisque cette parole me donne de le connaître chaque jour davantage. Deuxième test. L'apôtre Jean dit que celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est du baratin. Si je dis que j'aime Dieu, je dois aimer mon frère. Et mon frère se situe dans l'église, bien sûr. Le frère, c'est aussi la sœur. De sorte que tout chrétien véritable doit réellement aimer son église et les frères et sœurs appartenant à son église. Mais le premier commandement parle du prochain. Lui, le prochain, c'est le collègue de travail, le voisin, c'est l'homme de la rue, c'est le blanc, le noir, le jaune, le rouge. Si je dis que j'aime Dieu et que je n'aime pas mon prochain, mais c'est du baratin, ça sonne le creux pour mon Dieu. Et autre test, dernier test, l'amour donne et se donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai trouvé, en tout cas, c'est vrai dans ma propre expérience, il est tellement aisé de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne doit pas se manifester, se démontrer? Je ne dis pas dans des situations telles que celles que nous sommes en train d'examiner avec ce groupe de jeunes, ça pourrait nous arriver un jour. Mais tous les jours au niveau de nos vies quotidiennes. Oh, puisse le Seigneur nous donner de l'aimer vraiment, pour qu'il occupe la première place. Et c'est ce que nous aimons le plus qui occupe chez nous la première place. Au terme d'une réunion à la convention de Guebwiller, de la Ligue, une jeune fille était venue vers moi pour me dire, je traitais du même message, me semble-t-il, pour me dire, Alain Chouaquet, moi j'ai un problème parce que ce qui prend la première place dans ma vie, j'aime le Seigneur, oui, mais ça n'est pas lui. Je lui dis, c'est qui, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est le chocolat. Alors je lui ai dit, mademoiselle, vous vous retrouvez chocolat, littéralement. Et ce chocolat est mauvais pour votre foi, F-O-I-E, mais pour votre foi aussi, F-O-I. Et en effet, elle consommait, elle grignotait du chocolat constamment, au cours des repas, au cours des réunions, en promenade, elle mangeait du chocolat. Eh bien, elle a dû prendre la décision d'évacuer le chocolat de la première place de sa vie pour mettre le Seigneur à la place du chocolat. Sa statue à elle dans la vallée de Duras n'était pas une statue en or, mais en chocolat. Vous savez, ce genre de statue peut fondre au soleil de justice. Quel Seigneur! Mais qu'est-ce qui prend chez nous la place du Seigneur, la première place? Certes, le Seigneur a une place, mais laquelle? Oh, puissions-nous l'aimer par-dessus tout? Et savez-vous ce que j'ai découvert encore en étudiant ces choses? C'est que l'adoration est une sorte de ravissement en amour auprès du Seigneur, parce que qui aime au plus haut point, alors adore. Et quand nous devenons des adorateurs, nous voulons manifester que Dieu a véritablement la première place. Parce qu'adorer, c'est aimer au plus haut point. L'adoration est un ravissement en amour auprès du Seigneur, tandis que la louange, elle, est plutôt un jaillissement de notre joie. De la joie que Dieu a mis dans notre cœur, ceci à la lumière, par exemple, du texte où il est dit que le Christ, tressaillant de joie par le Saint-Esprit, dit « Père, je te loue !» Nous sommes censés être des adorateurs du Dieu vivant. Ceci signifie que nous sommes censés avoir Dieu chez nous à la première place. Parce que nous l'aimons, lui le premier, mais peut-être avons-nous perdu notre premier amour. Et le premier commandement ne se vérifie plus dans notre vie quotidienne. Tant et plus de choses prennent chez nous la place qui ne revient qu'à Dieu, la première. J'ai bien aimé le thème retenu par cette convention, Christ en tout, le premier. Est-ce le cas? Nous vivons, nous aussi, dans une sorte de vallée de Duras, où toutes sortes d'idoles ont été élevées et nous voyons des foules nées dans la poussière. La vallée de Dura est plus actuelle que jamais de nos jours. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui restent debout quand tous ont le nez dans la poussière. Est-ce qu'il nous trouve ainsi? Dieu cherche des témoins. Des témoins qui le glorifient, l'honorent, coûte que coûte jusqu'au bout. Est-ce qu'il nous trouvera ce soir prêts à lui obéir et à le glorifier, lui donnant chez nous la première place? Il n'est pas interdit d'imiter, dit la Bible, ceux qui, par leur persévérance, leur foi, ont hérité des promesses. Hébreux 6, 12. Il ne nous est pas du tout interdit d'imiter cette petite équipe à Babylone, puisque nous nous retrouvons un peu dans leur situation, et surtout parce que l'Antéchrist vient et qu'il vient rapidement. Oh, nous sommes entrés, comme nous le disait tout ce matin, il me semble, notre frère André Adoul, dans des temps excessivement sérieux. Si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, nous serons emportés de manière irrésistible par ces courants que libère le monde et qui sont tout à fait titanesques dans leur force. Et Dieu veut que nous vivions comme cette petite équipe, comme à contre-courant dans cette Babylone universelle que nous connaissons. Où en sommes-nous donc à cet égard? Debout. Debout pour Christ. Quel qu'en soit le coup, jusqu'au bout. Il est tellement facile de dire au Seigneur, comme ce fut le cas de l'apôtre Pierre, on ne lui jette pas la pierre, hein, parce que, à sa place, qu'aurions-nous fait? Il avait dit au Seigneur, t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Je te suivrai jusqu'au bout, et puis je suis là. T'inquiète pas, que de paroles dites comme cela, légèrement. Et nous ne voulons pas, nous aussi, dire légèrement toutes sortes de promesses à notre Dieu si demain nous devions être confrontés à une situation de ce genre. Mais qu'en serait-il de chacun de nous? Alors la situation est grave. Nous voulons simplement dire à Dieu que nous comptons sur lui pour tenir le coup, coûte que coûte, jamais sur nous. Mais nous voulons lui dire, Seigneur, occupe chez nous la première place, occupe chez moi la première place, et que personne ne vienne te la ravir. Dieu d'abord, Dieu le premier, et ainsi pourrons-nous retrouver notre premier amour. Que de fois j'ai dû me frapper la poitrine disant à Dieu, Seigneur, donne-moi de le retrouver ce premier amour, afin que je puisse t'aimer toi. Plus que n'importe quoi, n'importe qui dans ma vie. Et ceci demande aussi une décision. Nous la prenons en tremblant, en ne comptant pas sur cette décision pour tenir le coup, mais en comptant sur Dieu qui l'aura entendu, comme pour la petite équipe. Et cette petite équipe a pu tenir le coup au sein de cette fournaise babylonienne et jusqu'au bout. Oh, permettez que je rappelle ici ce que j'ai dit il y a 2 ans à la première convention de France Évangélisation, et je terminerai de cette manière-là. Vous savez peut-être comment François Coillard est devenu le grand missionnaire que nous savons. François Coillard se situait un jour dans une réunion missionnaire où l'on parlait de la mission au loin et des perdus au loin. François Coillard brûlait dans son cœur de servir le Seigneur. Et l'on présenta un plateau assez important pour cette offrande missionnaire destinée à l'évangélisation des perdus au loin. Quand le plateau arriva devant François Coillard, François Coillard regarda celui qui lui présentait le plateau pour lui dire « Mettez-le par terre. Mettez-le par terre. » Alors on peut imaginer ce qui a pu passer par la tête de celui qui présentait le plateau. Peut-être avait-il pensé, il a un tel magot à mettre dans le plateau que le plateau deviendra difficile à porter. Non, ça n'était pas cela. C'était encore plus important que le plus précieux de tous les magots. François Coillard avait décidé de donner sa vie à Dieu. Beaucoup plus que son argent, beaucoup plus que son temps. Il avait décidé de mettre Dieu à la première place dans sa vie. Il avait décidé de consacrer toute sa vie au Seigneur. Il ne savait pas, peut-être encore, comment le Seigneur allait l'employer. Mais une fois le plateau à terre, François Coillard se mit dans le plateau. Mais que j'ai aimé ça, vous savez. Donnant ainsi toute sa vie au Seigneur, en même temps que toute la place dans son cœur au Seigneur. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez mis votre vie dans le plateau du Seigneur? Entièrement? Totalement? Lui avez-vous consacré votre vie? Voudriez-vous ce soir lui dire au terme de cette convention: oh Seigneur, je constate que ma vie n'est pas dans ton plateau. Je te dis bien que je t'aime, mais en réalité, je la vis encore pour moi, mon existence. Je ne suis même pas à l'œuvre dans ton église, je ne te sers pas. Seigneur, aie pitié de moi, je dis que je t'aime, mais en réalité, tu sais ce qu'il en est réellement de moi. Devant toi. Eh bien, ce soir, je décide de mettre ma vie, de la placer dans, de te l'offrir, de la mettre dans ton plateau. Seigneur, je veux rester debout pour ta gloire, avec ta force, ton aide, quand tous autour de moi, chaque jour, ont le nez dans la poussière, aux pieds de toutes sortes d'idoles. Ô Seigneur, viens-moi en aide, mais ce soir tu as ma vie. Je te l'offre en offrande d'amour. Seigneur, prends-la, je te la consacre, qu'à partir de ce soir elle soit à toi. Et de retour, demain, dans la vallée de Dura de ce monde, donne-moi la force de tenir debout. Seigneur, je te consacre ma vie. Voulez-vous lui dire cela? J'aimerais vous en donner l'occasion. Nous allons verser dans un moment de prière, de recueillement, et vous allez prier dans votre cœur et placer, mettre votre vie dans le plateau du Seigneur pour la lui offrir entièrement. Sur la base, par exemple, de Romains 12, 2, où il nous est demandé d'offrir nos vies au Seigneur, nos corps, en sacrifice vivant. Vous pourriez par exemple lui dire, nous prions à présent. Seigneur, je ne veux plus que ma vie m'appartienne. Je veux te l'offrir entièrement, quel qu'en soit le coût. Je compte sur toi. Seigneur, pardon parce que très souvent je me suis incliné devant telle ou telle autre idole dans la vallée de Dura. Pardon parce que je t'ai renié. Pardon. Pardon parce que je n'ai pas serré les coudes avec des frères et sœurs pour tenir le coup dans la tempête et l'adversité. J'ai voulu vivre ma vie chrétienne seule alors que tu m'invites à la vivre en famille, dans l'église, en équipe. Seigneur, ce soir, je décide de t'apporter toute ma vie et de la mettre dans ton plateau en offrande d'amour. Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer. Je veux maintenant glorifier ton nom, vivre pour toi. Seigneur, témoigner de ce que tu as fait pour moi partout où tu voudras que je me situe. Ô Seigneur, entends cette prière. Ce soir, je te consacre ma vie, je te la donne, et que ce soit vrai tous les jours. Seigneur, entends-moi.